France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Que faire d'un corps qui a subi le viol? Cette question hante son théâtre. Elle avait sidéré le Festival d'Avignon avec le premier volet de sa trilogie. Elle revient à Paris en ce moment pour la deuxième partie. Carolina Bianchi sera mon invitée à partir de 13h. Et tout de suite, place à la critique. Ce vendredi, la musique prend les commandes et surtout l'audace. Avec dans l'ordre Luce, le nouvel album de Rosalia, à peine sorti et déjà record d'écoute sur les plateformes. Et Tranquilizer, 11e opus de l'américain 103 Point Never. Plus discret, mais valeur sûre de la musique électronique. Vous écoutez les Midis de Culture, allez, venez, on se parle. Et pour parler autour de la table aujourd'hui, deux paires d'oreilles redoutables et néanmoins superbes, Zoé Sfez, productrice de la série musicale Le Samedi à 17h sur France Culture.
Bonjour.
Bonjour. Olivier Lame, journaliste et critique à Libération.
Bonjour et merci.
Mais vos oreilles sont très belles, mais vous avez des casques, je ne les vois pas.
On écoute, mais on parle beaucoup aussi. Quand
même. Allez, c'est parti. Et voilà qu'elle récidive 3 ans après Motomami, qui l'avait propulsé en tête des écoutes mondiales sur les plateformes. Son 4e opus a totalisé plus de 42 millions d'écoutes en 24 heures, le jour de sa sortie la semaine dernière. Un record inédit pour une artiste féminine hispanique. Je vous parle évidemment du phénomène Rosalia. Et pourtant, Luce, c'est le titre de cet album, est loin de n'être qu'une machine à tube latino et à séduire. Enregistré avec le London Symphony Orchestra, il mêle les cultures, les langues, les influences à travers des figures mystiques féminines. L'ambition est donc démesurée. On commence par quelques mots en guise d'amuse-bouche. Zoé Sfez.
Très difficile de parler de cet album parce qu'on a déjà beaucoup glosé dessus. On peut dire quand même que c'est un geste de pop star comme on n'avait pas vu depuis assez longtemps, puisque on est vraiment à un niveau de prise de risque et en même temps très très cohérent. Si comme on est assez nombreux à le faire, on suit Rosalia depuis ses débuts, en fait elle poursuit sa voie. Mais c'est assez génial d'avoir quelqu'un qui cherche suivre une voie qui est bien la sienne. On s'écarte d'une certaine manière des choses qu'on connaît bien d'elle, mais de toute façon, ce qu'on entend, c'est que dans cet album qui est opératique, qui est plus symphonique, comme elle avait fait avec les flamencos, elle s'assoit dans des genres, elle s'assoit dans des bouts de référence, et elle parle du présent depuis ces endroits-là. Donc, quand même assez précieux d'avoir une femme de cette stature qui conserve un point de vue sur le monde suffisamment rare pour être très célébrée.
Olivier Lame.
Oui, moi j'ai envie de la remercier, de remplacer la dopamine par l'adrénaline, tout simplement. C'est même si je crains que ça soit momentané, mais enfin là, voilà, on peut pas s'empêcher d'avoir les poils.
Elle fait du bien. On écoute la page que vous avez choisie, que vous avez choisie, Zoé, Reliquia.
Manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en el E, los hills en Milán, UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia.
Reliquia sur le 4e album de Rosalia, Luce Zoé Sfès. Pourquoi vous avez choisi ce morceau en particulier?
Alors, c'est très difficile de choisir des morceaux dans cet album parce que certains se déploient, enfin en tout cas gagnent. Nous n'avons que droit qu'à une petite minute dans cette émission. Mais je trouve qu'il est intéressant parce que c'est le deuxième morceau de cet album qui se déploie en quatre phases. Donc qui est, et on va le voir, en fait, c'est tout à fait cohérent puisque Rosalia fait des espèces de mémoires de fin d'études à chaque fois qu'elle fait des albums, même dans le précédent qui est son album pop. On est obligé de revenir un petit peu sur l'histoire de cette femme, mais je trouve que c'est très intéressant. Cette chanson-là m'intéresse particulièrement parce qu'on n'est pas dans les choses très impressionnantes de Bergain, sur lesquelles on va revenir, qu'on a entendu, qui a été le single avec clip qui a porté clairement cet album, qui est un geste tellement monumental qu'elle a bien fait de parier dessus. Là, vous l'entendez, on est sur une voix qui à la fois est pop, un peu Aria Grande, qui commence sur ses cordes qui pourraient être un peu glaciennes ou un peu Steve Reichienne, qui se termine sur une espèce de moment un peu Moby. Bon, il y a toutes ces références. Ce que j'adore, c'est que c'est un peu le point de départ de cet album. Elle va vous dire, j'ai perdu mes yeux à Paris, j'ai perdu ma voix à Los Angeles. C'est une femme qui sort de trois tournées mondiales complètement monumentales. Et c'est l'endroit d'où elle part pour écrire cet album. Le parallèle avec quelqu'un comme Taylor Swift qui a sorti son album et qui est une femme qui, en permanence, nous vend le fait qu'elle parle d'elle et de sa vie intime. Je trouve que le contraste est tellement frappant puisqu'on est, on est sur une Taylor Swift qui n'a, je pense, plus grand chose à dire si ce n'est des pâles fantômes de sa légende. Et donc on est sur une Rosalia qui nous dit, voilà, moi je ne suis plus la petite fille catalane qui a émergé en 2017, je suis cette personne qui part partout. Et il y a la notion de relique, puisque cet album est totalement porté par un souffle spirituel. Elle dit qu'elle serait étudiante en théologie si elle n'était pas, si elle n'était pas aujourd'hui la musicienne qu'elle est. Et cette chanson est à la fois les reliques d'elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a laissé partout, qu'est-ce qu'elle a laissé d'elle-même et qu'est-ce qu'elle a gagné. Et c'est inspiré, et c'est ça qui est génial dans cet album, il n'y a jamais d'allusion littérale, par sa rencontre avec la figure de Rosario de Lima, dont les reliques sont éparpillées dans le monde entier. Et donc, c'est un très bel entrée sur cet album, puisque c'est un album qui, comme toujours chez elle, vient d'une rencontre avec des figures, un corpus, elle a étudié, et c'est l'écho que tout cela rencontre en elle-même, passer au filtre finalement des choses qui la préoccupent et pourtant d'un son et d'une question fondamentale, c'est-à-dire justement comment survivre dans un monde de dopamine. Elle sait comment elle est consommée et elle vient nous parler d'un endroit du présent qui est vraiment fondamentalement son présent, des choses qui l'intéressent elle, des choses exigeantes et qu'elle va réussir à nous transmettre dans un objet, mais tellement bien calibré dans ce qu'elle rencontre. Et ça, c'est du Rosalia. C'est-à-dire que c'est du Rosalia typique et c'est en ça qu'elle est assez magique dans cet album. Donc cet album, c'est un album orchestral, symphonique. On va le voir, en fait, en réalité, il est plein de choses parce que il y a aussi bien des chansons, donc elle chante en 13 langues, ça on l'a beaucoup dit, avec des références, des invitations. On est obligé de parler de Bergain parce qu'il y a l'invitation de Björk.
Morceau qu'on a entendu au début.
Morceau qu'on a entendu au début qui s'ouvre sur une espèce de début de violon très vivaldien, on va dire, et qui ensuite scande une phrase en allemand qui pourrait être une espèce d'hymne qui s'appelle Bergain comme la boîte de Berlin la plus fréquentée, la plus inaccessible, où il y a cette quête de la fête, cette perte de sens et qui veut en même temps dire forêt, buisson. Et c'est une chanson qui parle des moments où on se perd dans les forêts de nos pensées oppressantes. Donc voilà, c'est pour vous dire, l'enjeu d'une Rosalia, c'est qu'elle a toujours cette capacité, et elle a comme jamais cette capacité, de se dire, après Motomami, l'album hyper-pop qu'elle avait construit, qu'il a fait exploser mondialement, après son autre qui s'appelait El Malquerer, on va revenir quand même un peu sur ses origines-là, après Motomami, qui était un album qui lui a vraiment fait conquérir, on va dire, le statut de superstar, mais qui était déjà un album hyper intelligent, qui produisait un discours sur la pop, elle fait ce coup de prendre ce temps. En réalité, c'est très cohérent avec qui elle est. C'est, on va y revenir, plus intellectuellement séduisant au début que émotionnellement séduisant, mais quel geste, quoi.
Ouais. Olivier Lam.
Je vais rebondir sur l'histoire de l'émotion. Moi, j'oublierai jamais, je parlais d'adrénaline, j'oublierai jamais la première fois que j'ai écouté ce disque. J'ai ce privilège de l'avoir écouté un peu avant d'autres gens. Où j'étais, la qualité de l'air, la pression de l'air, l'intensité de la lumière, etc. Parce que c'était une émotion tellement intense. Et je me suis vraiment posé la question de pourquoi. Bon, j'aime énormément Rosalia depuis El Malquerer, donc comment dire, on l'a vu comme ça monter à partir d'un premier clip et puis les briques comme ça. Donc ça fait partie. Je crois que c'est quasiment la première fois que je suis une pop star, quasiment depuis le moment où elle se lance un petit peu vraiment sur cette carrière de conquête, en fait. Et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi je ressentais à ce point-là cette intensité qui à tel point que j'ai presque peur des fois d'écouter le disque, en fait, de le mettre sur la platine, comme ça m'est arrivé avec deux disques, je sais pas, Homogénique de Björk par exemple. D'accord. Que j'ai découvert à l'adolescence. Et j'ai repensé à ce que m'ont fait d'autres disques qui ont pas grand chose à voir. Contre Through Sound de Chico Buarque, qui est un disque absolument incroyable des années 70, qui est le genre de disque qu'on met à ses amis mélomanes en espérant qu'ils le connaissent pas, pour qu'ils aient une espèce de moment comme ça pendant l'apéro où tout d'un coup ils hallucinent, en fait. Et ça vient évidemment de l'orchestre, ça vient de l'appel d'air qui est provoqué par la dynamique du son, le son tout petit qui devient tout à fait totalement énorme de manière extrêmement libre, hein, voilà, l'opératique, le symphonique, ça ne suit pas a priori d'autres formules que celles que veut lui insuffler le compositeur, en tout cas dans la tradition, on va dire moderniste. Et ça nous signifie que n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Et ça veut dire qu'on se sent vivant. Et moi, je dois dire que quand j'écoute un morceau comme Mio Cristo, voilà, je parle pas italien, alors c'est un peu compliqué. Moi, je me sens vivant à un niveau vraiment hallucinant, et donc je me pose vraiment la question, et j'en arrive à la conclusion que c'est un disque qui est effectivement porté par une pop star, par la persona d'une pop star, par une voix. Voilà, Zoé a dit 10 fois, on y reviendra, on n'aura pas le temps d'y revenir, mais ce qu'elle fait avec sa voix, ouais, en termes de d'idiosyncrasie entre le flamenco, la pop, différentes, c'est absolument prodigieux. Voilà, on y reviendra.
D'autres
elle,
fois.
Elle pense en compositrice.
Ouais.
Je suis en train de lire des écrits de Berlioz en ce moment. J'ai oublié de chercher une phrase exactement. Elle pense en compositrice, et on peut trouver très précisément dans les écrits de Berlioz des choses qui peuvent totalement coller, en fait, à la manière dont elle a conçu cet album. Mmh. Voilà. Pour dire quand même, et pour dire à quel point c'est effectivement rare aujourd'hui dans la pop. Moi, je veux pas la comparer à Taylor Swift, parce que pour moi, c'est vraiment.
C'est un bel exemple de justement tout ce que n'est pas Taylor Swift, c'est tout ce que Rosalia
est.
Tout ce
que n'est plus la pop, on va dire, majoritaire, mainstream, depuis, on va dire, 15 ans, depuis, en gros, l'arrivée un peu des gros, des producteurs Nabab, etc., suédois principalement, etc., qui ont à tel point, en fait, imposé, en fait, une manière de fonctionner, une manière de fonctionner pour l'industrie, pour les usines, en fait, qui aujourd'hui, d'où sortent, en fait, les chansons de la pop, etc., qu'on en avait oublié, en fait, qu'on pouvait avoir, en fait, des émotions fortes qui n'étaient pas dans cette espèce de tout venant, comme ça, des plateformes de streaming, des choses qui nous excitent pendant 5 secondes, tel morceau de rap, tel morceau de pop qui arrive, qui mélange, qui va sampler tel truc de Stevie Wonder, et puis on est excité, on se dit, ah, c'est incroyable, etc. Mais en fait, c'est.
La pop, ou qui syncrétise l'esprit du temps, par exemple. Les comparaisons n'ont aucun intérêt, mais même par rapport à une Beyoncé qui est capable de syncrétiser tout ce qui se passe dans le moment présent avec des choses intéressantes et des pionniers et construire un discours. Mais elle fait un boulot de pop star qui est intéressant, qui est le boulot d'une pop star. Là, on est sur une fille qui a commencé à s'attaquer au flamenco alors qu'elle venait de la banlieue catalane. Moi, je la suis depuis Los Angeles, qui est son tout premier album, et même avant ça, son premier, et ça c'est fou, son premier single qui était Aunques de Noche, qui est une reprise d'un très 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 grand flamenco, d'un très grand chant de flamenco d'Enrique Morente, qui est un type qui avait une énergie punk, et qui est d'ailleurs le type qui a amené le producteur qui a un peu révélé Rosalía, qui s'appelle Raoul Refré. On est obligé d'en parler parce que c'est le type qui lui a insufflé cette capacité à penser depuis le flamenco et partir ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que elle parlait déjà, c'était déjà la reprise d'un chant de Juan de la Cruz, qui est un religieux du XVIIe siècle. Elle a cette énergie en elle. Ce qui est assez fascinant, c'est que, et quand elle s'attaquait au flamenco, et quand elle faisait à peu près tout ce qu'elle a fait, c'est-à-dire tous les genres latinos que vous venez de citer, c'est un disque qui ne se danse pas. C'est effectivement un disque qu'on écoute, et d'une traite même. Mes voisins l'écoutent d'une traite.
Ce qui m'intéresse dans tout ce que vous dites, et qui est très rassurant finalement, c'est qu'elle rencontre un public avec un disque qui est, on va dire le mot exigeant, qui n'est pas le bon mot, mais en tout cas, qui est un disque qui risque, qui est audacieux. Ça, c'est quand même incroyablement réjouissant.
Alors, elle dit qu'elle a écrit ce disque parce que sa sœur lui dit qu'elle avait un syndrome de la tourette musicale et qu'elle avait l'impression qu'elle n'allait jamais au bout de ses idées. On sent qu'elle a grandi dans cet album, c'est-à-dire qu'elle a été au bout d'une démarche de compositrice. Ce fameux aria que j'aurais voulu vous passer, mais c'était du Massacre, qui fait penser à du Berlioz, qui fait penser à du Handel, qui, moi, m'a fait penser à des airs de Verdi, les grands airs de la Forza del Destino, par exemple. Elle les a écrits en cherchant la trame, en se faisant des traductions. Elle dit qu'elle a grandi comme compositrice et comme chanteuse et dans sa démarche, mais elle dit surtout, ma sœur m'a dit un jour, sa sœur c'est sa grande collaboratrice, c'est aussi probablement une des clés du fait qu'elle a continué à rester qui elle est avec cette ambition. Elle dit, ma sœur m'a dit un jour que ma musique n'est en fait pas pop, mais que moi je le suis. Mais j'ai envie de penser que je suis pop parce que Björk et Kate Bush l'ont fait, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Et c'est vrai que ça fait penser à ces deux femmes-là.
On va s'arrêter là sur Rosalía. Lux est disponible chez Columbia. Alors on est peut-être un peu plus près de l'art sonore que de l'électro avec l'album qui nous intéresse maintenant, mais je vais laisser les critiques me contredire. Voici Tranquilizer, 11e album de 103 Point Never, musicien américain et archéologue des sons, car l'artiste, Daniel Lopatin de son vrai nom, récupère des samples, des médias oubliés, inutilisés pour composer ses morceaux comme autant de vestiges qu'il met à l'abri quelque part. Mais comme pour Rosalia, point de caricature, tout expérimental qu'il est, cet album est aussi tout à fait ouvert. On commence avec un avis rapide, Olivier Lam.
Oui, ben un 10 pour sortir du tunnel. Voilà.
Zoé Sfez.
Un 10 pour sortir du tunnel. Un disque pour sortir, pour être très vivant dans la nostalgie, ou pour renverser la nostalgie. Il y a quelque chose de organiquement très secouant dans ce disque-là. Ce qui est souvent vrai de ce type, mais pas toujours. Et là, moi, j'ai eu un peu la sensation inverse. J'avais la sensation que j'allais être conquise plutôt intellectuellement, et je l'ai été vraiment dans mon corps.
On écoute Rodel Glide, c'est bien ça, choisi par vous, Olivier. Tranquilizer de 103 Point Never est sorti chez Warp. Olivier Lam, qu'est-ce qu'on entend?
Alors c'est drôle parce que merci beaucoup au réalisateur qui a été choisi au milieu du morceau, parce que c'est un morceau qui est assez chill, hein, comme tout, assez tranquille, comme tout cet album en fait, qui est effectivement plus beau et émotionnel que qu'intellectuel, même si comme à chaque fois en vérité Lopatin en fait part de d'impressions de fugaces de et d'idées voilà qui peuvent sembler extrêmement conceptuelles, mais c'est quelqu'un qui pense comme ça, c'est quelqu'un qui vient d'un underground très, c'est la revanche des nerds en vérité si on peut dire, c'est vraiment quelqu'un qui a commencé à faire de la musique en bricolant un synthétiseur qu'il avait récupéré d'un vieil oncle, voilà, et en fait à se laisser entre guillemets posséder, porter par, on va dire, un monde, et on parle vraiment de l'internet de la fin des années 90 en fait, un monde comme ça de médias et d'art et de culture et d'œuvres complètement proliférant et complètement comment dire anarchique, qui dans lequel en fait il a commencé en fait à évoluer comme dans une jungle, mais avec cette c'est un chercheur d'or en fait, il se compare volontiers en fait au type qu'on voit avec des détecteurs de métaux sur les plages, qui peuvent tout à fait généralement trouver en fait des choses qui n'ont absolument aucune espèce de valeur, mais il a ce comment dire, il a ce cette espèce de sixième sens en fait qui lui permet en fait de sentir dans les choses qu'il va manipuler. Ça peut être des musiques de publicité. Là, c'est des disques, des vieux CD de musique prêtes à échantillonner en fait des années 90. Ce qui va raconter quelque chose de notre temps et aussi ce qui produit une musique extrêmement qui permet de s'évader et aussi éventuellement de trouver un état de sérénité.
Voilà, d'où la sortie du tunnel.
D'où la sortie du tunnel. Alors ça c'est particulier. On a l'ère de l'algorithme où pour trouver sa voie, on va dire dans la culture, en fait, on est quasiment obligé de se laisser balader, bon, pas nous, voilà, parce que nous, on est des gens évidemment supérieurs à tous les gens qui, notamment à tous les éditeurs qui nous écoutent.
Faut leur rappeler de temps en temps.
Non, mais je veux dire, on est évidemment baladé par des forces en fait qui nous dépassent, qui sont celles des multinationales, des plateformes, etc. Et notre rapport en fait à la culture, il a changé, je pense, de manière vraiment existentielle. Notre rapport au réel, en fait, à notre insu, on s'en est pas rendu compte parce que sur les plateformes, en fait, on trouve des images en haute définition, en fait, des pochettes de disques, par exemple. Donc, on a l'impression qu'on est dans une continuité depuis l'époque où on allait chez les disquaires, dans les médiathèques, etc. Mais c'est pas du tout le cas. La preuve, les gens qui veulent quitter Spotify en fait aujourd'hui parce qu'ils sont pas d'accord avec on va dire les politiques d'investissement de leur PDG Daniel Ek, en fait ils se lamentent qu'ils ont peur de plus savoir comment découvrir de la musique. Alors il se trouve que pendant quelques décennies en fait avant que Spotify existe, on a quand même réussi à découvrir de la musique en fait. Et pour ça il fallait faire confiance à la vie. Voilà, on dit sérendipité, le fait de rencontrer un ami, de discuter avec quelqu'un à la sortie d'un concert, etc. Et je pense que Daniel Lopatin en fait il nous remet en fait dans cette idée que il y a énormément de choses en fait à creuser dans le monde et il faut Il faut trouver sa voix, en fait. Il faut laisser suivre sa curiosité. Bon, tout ça, c'est un peu théorique pour parler d'un disque qui est quand même avant tout celui d'un énorme nerd qui a bricolé sur son ordinateur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Il faut faire confiance aux artistes, en fait, aussi, pour nous montrer qu'il y a des manières alternatives, en fait, d'éprouver des sentiments en écoutant de la musique. Par exemple, en s'éloignant un petit peu des autoroutes de l'information.
La nostalgie, ça fait partie des sentiments qui sont présents dans ce disque.
Oui, mais alors c'est intéressant, et la nostalgie, et tout ce que vient de dire Olivier. Je crois pas justement qu'il y ait cette illusion que les gens écoutent de la musique dans la continuité de ce qu'ils faisaient il y a 20 ans. Je crois qu'au contraire, pas du tout. Et que ce qui est au cœur de disque, c'est un propos qui est beaucoup plus frontal et qui est un peu... qui porte en lui une forme de mélancolie. Ce type, il a, je pense, à peu près nos âges, une quarantaine d'années. Ce qui est très troublant dans cet album, c'est que si vous avez grandi dans les années 90, que vous avez été jeune ou que vous étiez même enfant, c'est des sons que vous connaissez très 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 bien, donc qui ramènent tout de suite de manière vraiment mais diamétralement dans le cœur, quoi, à des images que vous avez forcément en tête, aussi du coup immédiatement, un peu comme quand on mange ou on sent quelque chose, à des choses qu'on aurait perdues. Les titres de cet album sont très évocateurs, hein. Il y a l'idée de résidus, l'idée de ruines, on est quand même beaucoup là-dessus. Donc évidemment, il se sert de matériaux qui sont les matériaux qui ont été les matériaux des geeks, justement, qui ont donné tant d'espoir. C'est toute cette ère aussi de l'internet florissant, plein d'optimisme, libre, d'espoir, libre, qui tout ça vient et vous serre le cœur comme ça en une seconde sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est effectivement, c'est en ça que je pense qu'il y a aussi quelque chose de très beau. C'est vraiment un mélange de la puissance du jeu. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. On entend un gamin hyper content de faire ça et qui vous emmène dans sa gaminerie, ce qui est évidemment intéressant parce qu'il a toujours eu ça, mais on peut quand même le dire, Olivier a très bien retracé son parcours. Moi, j'ai honte de le dire, je fais partie des gens qui l'ont découvert, parce qu'entre-temps, il est devenu aussi un compositeur très prisé de musique de film.
On va en parler de ça, voilà. Aussi, il a une autre carrière à côté.
Il a une autre carrière, enfin, il a une carrière qui est assez... on va dire, mais qui est devenu aussi un peu le type intello qu'on connaît si on écoute bien la musique, mais en même temps que tout le monde connaît un peu quand même, quoi. On connaît
son collaborateur de Rosalia sur Motomami, par exemple.
Ah oui, oui tout voilà. À fait, sur Motomami, et voilà, sons des films de Sofia Coppola, donc aussi tout ça, voilà, qui aime beaucoup ces sons qui sont à la fois statiques, évocateurs, vivants mais pas trop, dans une espèce de d'allégorie ou d'élégie d'un temps, d'une relation au temps qu'on aurait perdu. Et moi, je dois dire que j'ai bien aimé cet album parce que il y a des moments où je me suis un peu forcée à écouter ce type, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que ça n'est pas quelque chose qui... Je pense à son précédent album, notamment le 9e, je crois, où on entendait vraiment, évidemment, c'est toujours de la super bonne musique, mais quelque chose de plus je continue dans quelque chose d'expérimental et je persiste dans une pratique. Là, je trouve, et c'est probablement lié aux matériaux qu'il utilise, qu'il y a quelque chose qui, moi, dans son discours, à ce moment-là, me touche, évidemment, en plein cœur. On est quand même dans on vit encore aujourd'hui, voilà, Sophie, qui est la créatrice de ce truc qu'on appellerait l'hyperpop, mais qui n'est pas ça, nous a quittés il y a combien de temps maintenant, je crois 4 ans. On est encore dans cette réflexion, on est autour de cette discussion de c'est quoi le son, qu'est-ce que c'est le son dans ce monde hyper-capitaliste, ces sons-là, et qui sont des sons de machines, proviennent de quelle machine, quel type de machine nous sommes quand nous les écoutons. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui entre vraiment en relation avec tout ça, et qui se joue plutôt vraiment d'un côté, finalement, il y a quelque chose à la fois mélancolique et très joyeux. Donc c'est un album qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, en fait.
Olivier Lam, comment on le resitue, justement, on a commencé à le faire avec Zoé, cet album par rapport au parcours de... Je vais retrouver son nom parce que j'ai toujours du mal à
le
retrouver. Daniel Lopatine, c'est plus simple.
En fait, c'est une espèce de retour, entre guillemets, aux sources de deux albums, en fait, qui sont très importants du début des années 2010, qui sont Replica, qui est un album qui avait un peu, où il passait un peu d'un type de musique qui était une musique plutôt synthétique et un peu, on va dire, planante, à quelque chose d'un peu plus intellectuel, où il manipulait notamment beaucoup d'échantillons de musique de publicité, en fait, des années 80. Et l'autre album, c'est Echo Jams, qui est un disque qu'il a sorti en cassette sous un pseudonyme, un autre pseudonyme qui était Chuck Person, du nom du basketteur. Dans lequel, en fait, il manipulait des boucles, en fait, de musique très connue, Chris de Burgh, les Toto, etc., qui est, en fait, un disque qui a été extrêmement, qui est fondateur, en fait, d'un genre qui était qui est devenue très populaire dans les années 2010, qu'on appelait la Vaporwave, qui cette musique en fait qui nous replonge un peu dans les ruines en fait du capitalisme en temps réel, comme le pouvait le raconter par exemple Umberto Eco, j'en sais rien. Voilà, et le disque ne s'appelait pas Replica par hasard, voilà, c'était quelque chose de, il y a beaucoup de philosophie, mais c'était en même temps une musique qui nous emmène en fait immédiatement effectivement dans cet endroit spatio-temporel qu'évoquait Zoé, en fait, qui est cette espèce de moment des années 90 où on attend un peu l'avènement d'une espèce de nouvelle modernité, alors qu'en fait en vérité on sait que on n'en sortira jamais en fait de cette espèce de post-modernité qui n'en finit plus de je sais pas comment dire, de grossir comme une espèce de délire. Et aujourd'hui on voit 30 ans plus tard qu'on n'a pas vraiment évolué, on n'a pas vraiment avancé en fait, on est dans une espèce de boucle concentrique passionnante hein, qui donne de la musique absolument merveilleuse, mais effectivement on n'a pas changé d'époque, en fait, on n'a pas changé d'air. Et donc, il fait une espèce de boucle, en fait, avec cette époque, avec son disque quasiment le plus, réflexif, en fait, depuis une dizaine d'années.
Un dernier mot, Zoé ?
Écoutez, moi, je pense qu'Olivier a vraiment littéralement tout dit. Ce qu'on peut dire. si ce n'est que c'est, là encore, dans un registre complètement différent, c'est beau de voir des gens qui, effectivement, sont devenus le petit nerd qui a quand même accédé à une audience beaucoup plus large que celle qui était celle de ses débuts, et qui n'abandonne pas une forme d'exigence et de matrice de ce qu'il est. C'est moins tentant que quand on est devenu Rosalia, mais il y a quand même quelque chose qui persiste dans la... Effectivement, si on n'a pas changé d'époque, lui n'a pas changé d'acuité sur ce qu'il a envie de dire sur l'époque, et ça c'est encore une fois très réjouissant. Et quand même, cet appel au jeu reste quand même... Encore une fois, dans un monde où même nous, on n'est plus capable parfois de consommer de la musique avec jeu et avec réel désir, un très bel appel à continuer.
Est-ce qu'il performe sa musique et il la joue en live ?
Oui, moi je l'ai vu plusieurs fois. Sous plein de formes différentes. Hein. Il peut le faire en groupe, comme il l'a fait il y a quelques années, où il était accompagné d'un batteur, etc. Ou moi je l'ai vu il y a 2-3 ans, il était tout seul sur scène avec un inventeur d'images, en fait, vidéaste qui s'appelle à tête, et en fait qui animait des marionnettes en temps réel. C'est absolument fabuleux à voir. Je sais pas s'il va refaire ce truc là, mais juste une dernière chose sur le titre de l'album, Tranquilizer, qui veut dire tranquillisant. Et moi j'adore cette idée que lui-même raconte, en fait, de l'assoupissement, mais qui est infligé en fait avec la violence d'une seringue qu'on vous envoie dans l'épiderme avec un fusil ou une sarbacane. C'est génial, cette espèce de paradoxe
là. On va en rester là, c'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Lam, merci Zoé. Sphèse, Tranquilizer de 103.9 point never, et donc sorti chez Warp. Vous qui nous écoutez maintenant, et ben c'est à vous de vous faire une idée.